Charles-Louis-Philippe, La mère et l'enfant, chapitre 6e. Mais aujourd'hui j'ai 15 ans, et l'avenir qui vint me trouver jadis est mon hôte. Nos 15 ans au lycée se calment, parce qu'ils ont un peu la force des hommes et peuvent vivre au loin de l'appui maternel. C'est à 15 ans que l'on devrait quitter sa mère. On dit que le mauvais temps passe et qu'un enfant de 12 ans, à cause de son imagination voyageuse, trouve le chemin du bonheur. Et l'on ne s'en inquiète pas dans le monde. Si nos mères nous regardent, elles voient la souffrance, mais le monde n'en tient pas compte et parle de la nécessité de la souffrance. Nous avons tous passé par là, c'est la vie. Ô philosophe, qu'avez-vous fait des 3 dernières années de mon enfance? Vous leur avez construit un lycée que vous avez tapissé de vos principes. Mon enfant, c'est pour ton bien. Vous avez dit, tu sacrifies le bonheur de ton enfance, mais cela ressemble à ton père lorsqu'il place de l'argent qui lui revient un jour avec des intérêts. Ô philosophe, l'avenir ne m'a rendu ni le capital, ni les intérêts. Jamais il ne les a rendus à personne. Les joies de notre enfance ont un goût qui demeure et une substance qui nourrit les hommes. Moi qui en fus privé, me voici pâle. Or, il n'est pas de suralimentation du bonheur qui nous redonne le bonheur intégral et l'énergie que nous avons perdue. J'ai vu des garçons qui, parmi nous, vinrent à 15 ans. Je connais leur existence des premiers jours, et je vous dis qu'ils n'ont pas trop souffert de la solitude et du lycée. C'est qu'à 15 ans, notre âme vigoureuse sait lutter avec des âmes camarades qui la fortifient, et notre âme résistante peut se heurter à l'âme du pion qui ne la blesse pas plus loin que la surface. Si l'on disait qu'à 12 ans, il faut s'habituer aux usages et connaître les sciences du lycée, ce serait mentir, puisque des garçons de 15 ans vinrent parmi nous, qui n'ont pas souffert de notre ennui, et qui devinrent aussi bien que nous les premiers de la classe. Il faut dire encore que les enfants de 15 ans, moins mobiles que ceux de 12, ne sont pas autant gênés par les fardeaux de la discipline. Pour moi, la destinée tout autre doit mes 15 ans de malheur et de passivité. Il y a l'habitude. Dirais-je que j'ai souffert? Les vieux forçats ne souffrent pas non plus. Ils travaillent depuis si longtemps qu'ils ne savent plus ce qu'est le repos. Et ils ont tant marché qu'ils n'ont plus envie de courir. Je crois quand même avoir connu plus de joie qu'ils n'en connaissent, à cause de mon frère, l'avenir. Je vis à côté de l'avenir bien plus qu'à côté du présent. Mon frère, l'avenir, est un frère jumeau qui serait vif et sérieux. Mon frère me prend le matin avec un regard très bon. Alors, je regarde mon frère au lieu de regarder le pion. Il fait les études assidues, il fait les classes attentives, il fait aussi le professeur bienveillant. Quand je suis le premier en composition, mon frère me dit « C'est comme cela que je t'aime, parce que tu te rapproches de moi. » Soyez loué, mon frère. Vous étiez jadis un chapeau chinois à clochettes pour me plaire, car j'étais un enfant. Vous êtes maintenant mon frère l'avenir, et je vous vois entre moi et les mots. Vous faites le professeur bienveillant, mais je crois que vous faites aussi le pion plein de haine. Les ratés et les retardataires souhaitent que toute destinée soit mauvaise, afin d'avoir des compagnons de malheur. Je sais que le malheur est sacré. Je sais encore que les ratés et les retardataires sont d'anciens hommes innocents. Je voudrais baiser un forçat et lui dire « Tu es sanctifié. Je t'aime comme je t'eusse aimé quand tu étais un enfant. Je t'aime parce que toute la douleur humaine est tombée sur ta face et l'a défigurée. » Mais comprendre le malheur n'empêche pas de détester le mal. Et puis, les pions sont des forçats, mais sont des gardes-chiourmes. D'ailleurs, il y a des hommes si méchants qu'au fond de nous-mêmes, une joie, immonde sans doute, tressaille et approuve la destinée. Tu es pion, mais tu l'as bien mérité. Il en est un qui empoisonna mes 15 ans. Je vois cet homme, jaune et chauve, avec sa calvitie vieillissant ses 24 ans, comme un mauvais sentiment vieillit notre âme. Son nez substantiel et courbé, son menton, sa barbe jaune et son front semblaient des os et des poils comme ceux des bêtes inhumaines. Ses yeux, implacables et rigides, se posaient sur nous, pareils à du froid bleu. Et ses grosses mains aux gros doigts, on les eût prises pour des poings. Je vois cet homme avec sa correction. Vêtu comme un homme civilisé, sans doute faisait-il l'admiration des garçons de café, ou l'envie des jeunes filles, et peut-être même, disait-on, monsieur un tel est toujours propre et il a l'air convenable. J'aurais voulu que vous le vissiez au milieu de nous, là où ses vêtements élégants contrastaient avec sa méchanceté. Il avait essayé toutes sortes d'apprentissages, et surtout celui de comédien. Les comédiens qui font des pauses et qui ont le geste de toutes les circonstances humaines sont enviés par les ratés, car le raté est un homme qui pose et qui se sent doué pour chaque circonstance. Le pion avait pris des leçons de déclamation qui lui firent obtenir un petit succès dans un théâtre d'étudiants à Grenoble. Maintenant, il était comédien au milieu de nous. Il y a une façon de serrer les dents et d'avoir une voix nette pour aller jusqu'au fond de l'élève que l'on veut punir. Et si à cela l'on joint de la froideur et un certain regard, les punitions deviennent cruelles et crient vengeance. Le pion s'exerçait à produire un tel effet. Il se servait de son habitude de la déclamation pour satisfaire ses mauvais instincts, et se servait de ses mauvais instincts pour rendre sa froideur plus méchante. Je ne sais pas comment il se comporta au théâtre de Grenoble, mais je vous assure que chez nous, il avait beaucoup de talent. À l'époque où je le connus, il était en outre auteur dramatique. Si, dans Le Monde, vous avez vu représenter une pièce qui s'appelle « Politique et horticulture », je ne pense pas que vous l'ayez trouvée belle, parce qu'il n'y a que les hommes beaux qui sachent composer des pièces belles. Je me souviens encore qu'il fit copier par un nègre, élève de son étude, une nouvelle intitulée « Le châtiment ». Il s'y passe un événement extraordinaire, puisqu'un père, mort par la faute d'un de ses fils, alors qu'approche le coupable pour lui donner un baiser, détend ses muscles et lance un soufflet. On explique cela physiologiquement, mais on l'explique aussi mystérieusement afin d'obtenir une impression de terreur. Je pensais que si l'on châtiait ainsi ses persécuteurs, et si le pion s'approchait du lit de mort de ses anciens élèves, il recevrait bien des soufflets. Notre pion était homme de lettres. J'ai souffert à cause de la littérature. Il croyait, puisque j'étais un bon élève dans une classe de sciences, que je devais détester la littérature. Il me persécutait, comme on commet une bonne action. Il poursuivait en moi le philistin et l'imbécile qui laisse mourir de faim les hommes de génie. En ce temps-là, je lisais les annales politiques et littéraires. et le pion souriait avec supériorité, parce que je ne devais pas y comprendre grand-chose. C'était d'affreuses punitions que les punitions du lycée. Il y avait d'abord les arrêts, qui nous prenaient nos meilleurs instants. Les arrêts se font pendant la récréation. Être aux arrêts, c'est se promener en file, les bras croisés, silencieux, avec la présence d'un pion. Il se compose d'une grande tentation, car près de nous, les jeux se livrent à la joie, les conversations circulent et les appels et la liberté. Nous regardions ces choses en faisant nos arrêts. Nous les regardions avec nos yeux tentés, comme un enfant infirme regarde par sa fenêtre les jeux, les mouvements et le bonheur. Les arrêts se composent en outre de fatigue et d'hébétement, parce que la marche ne repose pas le corps, ainsi que les jeux, et parce que le silence ne repose pas l'esprit, ainsi que les conversations. Je ressens encore ces marches quand le temps se mesurait à nos pas et quand chaque heure comptait des milliers de pas. Le premier quart d'heure est bientôt passé. Mais pendant le second quart d'heure, on commence à fatiguer ses jambes et ses idées. On arrête une pensée sur la borne fontaine où de l'eau coule, sur les fenêtres du réfectoire et sur le mur. On regarde les cabinets, la cour et les camarades. On attend que la demi-heure sonne. Et quand la demi-heure a sonné, l'on est triste parce qu'il faut attendre à sonner moins le quart. On est là parce qu'on ne sait plus à quoi penser. Et l'on sent marcher ses pauvres jambes sans but sous l'œil d'un pion qui contemple leur fatigue avec indifférence. Et nous avions 12, 13 ou 14 ans. Nous avions ri pendant l'étude ou causé dans les rangs. Nous avions suivi quelques pentes de notre imagination. Nous étions punis parce que nous avions 12, 13 ou 14 ans. Pendant l'année où j'eus 15 ans, je passais toutes mes récréations aux arrêts. Il y avait la récréation du matin qui est fraîche après la soupe et qui entre dans les cerveaux. Celle de 10 heures après la classe qui nous fait danser comme des poulains échappés. Et ces deux récréations sont les plus mauvaises pour les enfants punis, parce qu'elles les privent d'un peu de leur jeunesse. Il y avait la grande récréation de midi et demi, et celle de 4 à 5. Sitôt qu'il y avait 5 minutes de récréation, il fallait que je m'en aille aux arrêts. Parfois je disais au pion, « Mais monsieur, vous ne m'avez pas puni. » Il répondait, « Eh bien, je vous punis. » J'ai senti les yeux et les mains de cet homme pendant une année entière. Ses mains étaient des poings, mais ses yeux étaient plus durs que ses mains. J'entendais la voix de ses dents serrées. Ses yeux passaient sur ma chair. La punition énoncée avec clarté par un grand artiste qui ne déclame point. La punition énoncée avec clarté par un grand artiste qui ne déclame point traversait l'air et faisait silence autour d'elle. J'ai dit que cet homme était méchant. Qui sait? Les tigres ne mettent pas de méchanceté dans leurs actes et mangent un homme simplement parce qu'ils ont faim. Les arrêts étaient moins mauvais que le pion. Les arrêts ont le silence et marchent à pas égaux, comme la méditation. On finit par oublier que l'on est aux arrêts. C'est Kant qui se promène dans l'allée de Königsberg avec l'habitude du ciel et des tilleuls et pour qui chaque pas est une pensée. Il a fallu 3 ans pour m'habituer aux arrêts. Puis les arrêts m'ont promené dans leur allée et m'ont rendu comme eux, méchant et pensif. Mon premier orgueil, l'orgueil d'être impersécuté. J'ai sondé mon âme. J'ai vu qu'elle ne contenait pas de mal et que les hommes étaient injustes. Alors j'ai dit à mon âme, « Va, C'est ton chemin qui te mène à la prison. Mais suis ton chemin puisque la prison ne te fait pas peur. Il y avait aux arrêts mon frère l'avenir. Mon frère l'avenir se tient à ma droite et marche. Et dans les arrêts qui tournent, marche comme la délivrance auprès des prisonniers. Mon frère m'entraîne. Et c'est mon corps qui marche à pas égaux. C'est le présent que l'on torture, mais l'esprit garde sa liberté, et la vie se compose d'avenir. Qu'importe un pion et sa rage, les fleuves qui coulent, souillés d'ordures humaines, coulent vers la mer qui purifie. Les arrêts et leur ennui m'ont rendu plus grave. J'ai causé de choses sérieuses avec mon frère l'avenir. On a dit que la souffrance était fortifiante. Je le sais bien. À moi, la souffrance a d'autant plus servi qu'il s'y est joint l'esprit de vengeance. Mais voyez comme la souffrance fait de mauvais enfants. En ce temps-là, je voulus être officier parce qu'un officier commande à des hommes. J'avais souffert, et le pion m'avait montré toute son autorité. De sorte que je voulais avoir un peu d'autorité afin de faire souffrir les pions à mon tour. Le bel uniforme est un bonheur parce qu'à l'autorité il ajoute l'éclat. Je me voyais dans la rue, un sabre et un dolman, et mon regard serait plus brillant et plein de mépris lorsque, passant auprès du pion, je le regarderais en pensant « homme vil et pion ». Il y avait des moments où je marchais comme si j'avais des bottes. J'eus l'orgueil de cet avenir, et j'eus l'orgueil du présent qui comportait un tel avenir. Va, c'est ton chemin qui te mène à la prison, mais suis ton chemin, puisque la prison ne te fait pas peur. C'est derrière elle que la gloire se cache, et la gloire brille davantage sur le front d'un ancien prisonnier. Si j'ai dit que les arrêts m'avaient rendu grave, ce n'est pas parce qu'ils voulaient que je fusse officier, mais parce qu'ils me donnaient du courage pour l'être. Théorème de mathématiques. Vous n'étiez pas des théorèmes de mathématiques. Je vous voyais comme un sabre et comme un dolman galonné. Je vous voyais comme de la vengeance et comme un regard méprisant que l'on jette à un pion. Je vous voyais comme une existence de gloire et de bonheur qui nous fait oublier les arrêts de nos 15 ans. Physique et chimie, histoire et géographie, je me suis penchée sur vos livres qui me préparaient à la vie. J'aimais moins les discours et les compositions françaises parce que le pion était un homme de lettres et parce que les officiers sont des hommes d'action qui n'aiment pas les phrases. Je fus le plus assidu à l'étude et le premier en classe. Cela même donnait au pion une rage froide, sentir que je lui échappais et me voir plus fort qu'une punition. Il y eut entre nous un duel, car ce pion croyait que les punitions pourraient me vaincre et se rater, voulait que je devinsse un raté comme lui. Sois loué au chien, tes morsures et ta gueule m'ont appris qu'il faut combattre et m'ont donné du courage. Mes camarades de 15 ans ont été de bons camarades. Au fond de l'humanité, où sont les forçats du bagne, les soldats de la caserne, les mendiants des routes et les enfants du lycée, l'on trouve de bons sentiments. Je me souviens, un soir d'automne, dans mon enfance, de deux trimardeurs assis au bord d'un fossé. Ils se passaient un bras autour du cou. Ils s'approchaient bien près l'un de l'autre. Ils se pressaient la main et s'embrassaient. La vie leur était dure comme un pion, mais ils unissaient leur cœur. Ils n'avaient pas de femme, pas de mère, pas de frère. Alors chacun d'eux fut pour l'autre une femme, une mère et un frère. Nous avions déjà besoin de certaines choses et nous étions de bons camarades, unis contre l'ennemi commun. Mais toi, ma bonne maman, je t'aimais comme je t'ai toujours aimée. Je t'aimais avec élan, comme on aime le ciel à travers les barreaux d'une fenêtre. Je pensais à toi comme un prisonnier pense à l'espace. Maman, tu ressembles aux vacances alors que le monde nous ouvre ses portes. On ne te voit que 2 ou 3 fois par an et tu es d'autant plus belle que tu fais partie de la liberté. Les vacances de 15 ans, plus vives que celles de 12, je les compare à nos 15 ans qui sont nos 12 ans agrandis. À 12 ans, notre cœur rentre au nid. Mais nos sens et nos sentiments de 15 ans prennent les sensations du monde. Et celle du nid n'est que la plus douce, formée d'amour et de repos. Voici qu'ayant parlé d'un pion et des misères qu'il créa, j'ai presque menti en nommant le malheur. Oui, puisqu'en ce jour de vacances, le pion s'enfuit comme un mauvais souvenir et devient un souvenir de souffrance pour augmenter la bonté d'un instant heureux. Ce sont nos poitrines qui respirent, avec nos yeux qui voient et nos pieds qui vont, et ce sont nos 15 ans qui ont tout oublié, généreux, et n'ont gardé de la prison qu'un désir d'aller dans l'étendue. Les vacances de Pâques furent, cette année-là, un printemps qui correspondait à mon âme. Il y eut sans doute des vacances de Pâques aussi belles, mais il n'y en eut jamais d'autres pendant lesquelles j'eus 15 ans. La nature s'ouvre tout entière et m'appelle. Viens donc, je suis là pour te plaire, et pour que tu me comprennes, je me suis donné 15 ans. Nature qu'autrefois je connus, vous m'apparûtes charmante et brouillée comme moi-même. Vos prés se mêlant à vos champs, vos arbres, vos haies, et vous, tout vert et tout bleu, et vous formiez un ensemble agréable qui est la campagne. Mais maintenant, nature que je connais, vous semblez plus grande avec des formes, des couleurs et la vie, et vous avez tant de faces et si distinctes qu'à chaque instant je les découvre et les comprends. Lorsque je m'éveillais le matin, un soleil jeune, un beau soleil d'avril, avait déjà passé sur la terre afin de l'éveiller. Tu éveilles, mon beau soleil, la maison, la rue et le ciel. On ouvre la porte et la fenêtre. Tu entres et tu nous apportes ces bonnes idées des matins de printemps. J'ai 15 ans, mon beau soleil. Tu cherches dans les champs les germes assoupis, et tu en fais de l'herbe, des bourgeons et des fleurs. Tu cherches dans ma tête les sentiments d'amour, et tu leur fais aimer l'herbe, les bourgeons et les fleurs. Bonjour, monsieur le soleil. Vous êtes un beau monsieur de dimanche, un beau monsieur de vacances, et je vous aime comme le père du printemps. Quand j'étais enfant, parfois, je vis des officiers et des saltimbanques. Les officiers, rouges et bleus, pareils à nos cerveaux de 10 ans, m'attiraient comme un désir. Et les saltimbanques ressemblaient aux officiers. Je les suivais ainsi qu'un satellite pour recevoir un peu de lumière et de chaleur. Et je les examinais, officiers et saltimbanques, avec un grand amour. Aujourd'hui, je cours après du soleil. Les images plus variées de mon imagination et le sentiment poétique du monde que l'on possède à 15 ans m'entraînent sur la route et m'en font goûter le spectacle. Je suis le soleil, ainsi qu'un satellite, pour recevoir un peu de lumière et de chaleur. Et je le suis bien mieux qu'un officier, car il est plus brillant. Voici les rues et les routes. Je salue les routes du printemps qui suivent leurs pentes et marchent dans la nature. Elles ne sont pas très belles puisqu'elles sont utiles, mais je les regarde quand même. Je leur trouve une couleur café au lait, et les haies qui les bordent semblent pousser sur leur sol. Je salue les prés et l'herbe où vont les bœufs. Ils s'étendent sous le soleil limpide. On ne sait pas s'ils sont verts ou bleus. La raison dit qu'ils sont verts puisqu'ils sont pleins d'herbes. Mais le cœur dit qu'ils sont bleus à cause de leurs reflets. On les regarde et l'on pense qu'ils ont été créés pour faire notre admiration. Et les champs qui environnent les prés sont pareils à de la terre et font croire que les prés sont des champs sur lesquels on a mis un tapis. Je salue les arbres et surtout les pêchers. Il est un poème qui parle de la Vierge vêtue d'une robe couleur fleur de pêcher. Je priais maman de m'indiquer un pêcher en fleur et je courus à lui. Ah, voici des fleurs de pêcher qui sont bien mieux que si elles étaient roses et qui sont si belles que l'on ne peut pas les décrire. Je les regardais longtemps, je fus éblouie, je les sentais comme entrer en moi pour me donner un bonheur couleur fleur de pêcher. Ah, voici des fleurs de pêcher. Mais le ciel de Pâques est tout entier avec de la lumière. Il est blanc, bleu et brillant. On dirait qu'il a dissous le soleil. On dirait encore qu'il est tout couvert de rosée. Et puis j'ai tort de parler du ciel. Depuis la terre jusqu'au ciel, l'air est brillant et bleu comme le ciel de Pâques. Ô printemps, les haies en fleurs, le ciel, la terre et mes 15 ans se contemplent comme des amis qui se connaissent depuis hier, mais qui sentent qu'ils se connaîtront toujours, et comme des amis dont l'amitié fut soudaine et qui se confient déjà leurs sentiments profonds. C'est ainsi que mes sentiments faisaient partie de la nature et contenaient un peu de sa beauté. Il ne fallait pas leur demander davantage. Nos poitrines de 15 ans suffisent à peine à notre respiration. Maman ne fut pas celle que j'espérais, la mère aux choses et l'ancienne mère de 12 ans qui tenait lieu de n'importe quoi qui m'aurait manqué. Mon corps est tout droit. Le printemps qui le fortifie l'appelle et le tente. La seule chose qui puisse me manquer, le printemps me la donne, c'est l'air avec la liberté. Jadis, ma mère eut une main qui prenait la mienne parce que mes jambes vacillaient et parce que ma tête ne savait pas les conduire. Maman possédait tout ce que je n'avais pas. Elle me guidait avec ses idées fortes et m'appuyait sur ses mains protectrices. Que les temps ont changé. Ma mère encore était un centre où allaient tous mes sentiments. Mes petits sentiments d'autrefois sortaient de mon cœur afin de parcourir l'univers, et puis voyaient que l'univers est trop grand pour les petits sentiments. Alors, ils couraient tous auprès de ma mère, comme une petite troupe qui ne sait pas quoi faire, et qui reste où il fait bon. Voilà. Parfois, la mère promenait ses oiseaux dans les champs. Savez-vous ce qui arriva? Un jour, la mère était absente, et les petits oiseaux se sont promenés seuls. Ils se sont aperçus qu'on ne se perd pas dans le monde et qu'on y respire. Ne dites pas que je n'aime pas ma mère, puisque ma prison contient son image. L'homme heureux est seul, en tête à tête avec le bonheur. Le printemps est mon bonheur. C'est pourquoi je suis seul en face du printemps. C'est à Pâques qu'il faut venir nous voir, au son des cloches, et l'on apprendra que les cloches sonnent, que la joie l'y suit, et que les enfants l'accompagnent. Thank you.